J'espère qu'on n'a pas arraché les câbles.
Non.
Très bien.
Sinon, les câbles, je ne peux pas assez long. Je savais que ça t'inquiéterait, mais...
Oui, ça m'inquiète beaucoup, la fille, ça passe dessus. Voilà. Mais il est l'heure. Voilà, bonsoir. Nous voici arrivés à notre deuxième conférence de carême sur le thème du combat spirituel. Et après avoir regardé la semaine dernière le combat du Christ, nous regardons cette semaine le combat de l'Église. Je vous propose, pour entrer dans ce temps de conférence, vous avez du mal à entendre. Pourquoi ? Parce que ça doit être encore réglé sur 5, et donc je vais le... Tu as réglé sur 1. Donc normalement, vous devriez entendre sans difficulté. Non. Donc si c'est réglé sur 1, on ne pourra pas mieux faire. Voilà. Donc, si vous voulez que je crie au micro, c'est encore possible, mais ce sera plus compliqué. Donc au début de notre conférence, nous allons nous confier à l'Esprit-Saint pour lui demander à la fois d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs, à la fois l'intelligence et le cœur de ceux qui vont parler, mais aussi de ceux qui écoutent ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Esprit de vérité, viens toucher nos cœurs et nos intelligences, que nous puissions recevoir la révélation que le Seigneur Jésus veut nous partager pour nous mener sur le chemin de la sainteté. Ce chemin de carême est semblable au chemin de l'Exode. Il doit nous mener en terre promise, la terre où l'on vit avec le Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Et donc notre conférence sera à nouveau à deux voix, un premier temps que j'assure à partir de l'Écriture sainte et puis un deuxième temps assuré par le Père de Mello avec une approche théologique sur ce combat de l'Église. Alors, je voudrais commencer en évoquant le fait que le Christ lui-même a annoncé le combat de l'Église. Il l'a annoncé à plusieurs reprises. Et déjà, ne serait-ce qu'en Matthieu 16, 18, vous savez, c'est ce moment où Pierre a confessé que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. » Si Jésus dit que les portes de l'enfer ne tiendront pas contre l'Église, c'est bien qu'elle s'oppose à l'Église. Il y a déjà eu une annonce d'une animosité, l'annonce d'une résistance. Mais l'on verra aussi le Christ annoncer des périodes troubles lorsque les apôtres à Jérusalem s'émerveilleront devant les pierres du temple en disant « Seigneur, mais regarde ces constructions ». Et le Seigneur à la fois leur annonce qu'il ne restera pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem, mais il annonce une période de tribulation. Et je vous cite ceci, par exemple, tiré de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 24. Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse. Il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, « C'est moi le Christ. » Ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. » On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines intestines. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Voilà que le Christ annonce une période troublée pas simplement à cause des événements politiques, mais aussi à cause des événements religieux, des faux prophètes qui abusent bien des gens, une iniquité croissante où l'amour se refroidit chez le grand nombre. En Saint Jean, on nous précisera même que Jésus, au chapitre 16, dit ceci. C'est le dernier dîner de Jésus avant la Passion. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous exclura des synagogues, bien plus l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et cela ils feront pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. Donc Jésus lui-même annonce ce combat, cette persécution que ses disciples, que son Église connaîtra. Et en Saint Jean, on va préciser à cause de quoi, pourquoi cette persécution de l'Église. Nous lisons ceci, c'est au chapitre 15. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. Mais tout cela ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Donc, le lien ici, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur apprend, dans la relation maître-disciple, à vivre comme le maître. Si l'on a persécuté le maître, on persécutera aussi le disciple. Donc, les disciples de Jésus, l'Église, si elle est fidèle à son maître, connaîtra la persécution. Elle éprouvera, elle ressentira, elle sera victime de la même haine du monde. On nous manifeste aussi, et c'est le livre de l'Apocalypse qui va nous le donner à contempler, la rage de l'ennemi. Vous vous souvenez, au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, on nous parle du signe grandiose qui apparaît dans le ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu à 7 têtes et 10 cornes. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel, les précipite sur la terre. La femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. On voit ici comment, de façon imagée, la naissance de Jésus est manifestée. Et on va préciser encore qui est ce dragon qui en veut à la femme. On nous dit ceci, il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle. Mais elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge, où loin du serpent elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme, ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Alors, qu'est-ce que l'on voit à travers ce long extrait de l'Apocalypse au chapitre 12? Le diable, l'antique serpent, est chassé du ciel. Il n'y a plus de place sur lui au ciel. Et il va déverser sa fureur sur la terre. Et comme la femme, la Vierge Marie et l'enfant Jésus ont échappé à ses prises, il retourne sa rage contre le reste des enfants de la femme, contre ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire les disciples du Christ, et possèdent le témoignage de Jésus. La rage que le serpent, que le diable a de ne plus avoir de place dans le ciel, de ne pas avoir de prise sur la Vierge Marie et sur le Christ, il la rejette sur les disciples de Jésus. Et l'on voit encore, l'Apocalypse va manifester la puissance de cet ennemi. On a parlé déjà donc du dragon, du diable et de ses anges, mais le chapitre 13 de l'Apocalypse nous manifeste certains serviteurs particuliers de ce dragon à travers deux bêtes, une première bête. La bête que je vis ressemblait à une panthère avec les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, émerveillée, la terre entière suivit la bête. On voit des prodiges de cette bête, servante du dragon, et qui a prise sur le cœur des hommes de la terre. Ils sont émerveillés, ils suivent la bête. On se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, et l'on se prosterna devant la bête en disant « Qui égale la bête? Qui peut lutter contre elle ?» Donc l'impression justement que les serviteurs du diable, les serviteurs du dragon, ont tout pouvoir, ont la puissance, ont une puissance contre laquelle nul ne peut lutter. On lit un peu plus loin à cette bête, « On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. » On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation, et ils l'adoreront, tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. On voit surgir une autre bête, à la fois d'autres serviteurs, mais aussi, du coup, une influence qui s'étale dans le temps. Au service de la première bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplit des prodiges étonnants jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre. Et par les prodiges qu'il lui a été donné d'accomplir au service de la bête, elle fourvoie les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée du glaive, a repris vie. Vous voyez, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit, d'une certaine manière, singer ce que le Christ fait. Les guérisons du Christ, le Christ qui révèle justement le visage du Père, il est l'image du Dieu invisible, et la bête fait des prodiges de puissance, on dresse une autre image, mais ce n'est pas celle de Dieu, c'est l'image de la bête. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, ceux qui demeurent fidèles à Dieu. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, on continue de qualifier cet ennemi. On continue de qualifier cette opposition à la révélation du Christ. Je suis dans la deuxième aux Thessaloniciens au chapitre 2. Saint Paul dit ceci, « Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. » Alors, je reprends ce qui est évoqué ici. Il y a un mystère de l'iniquité, un mystère de l'injustice. Un mystère, c'est une réalité cachée qui se dévoile. Et de la même façon qu'il y a le mystère de Dieu qui se dévoile, il y a ce mystère de l'iniquité, d'une certaine manière, que la lumière de Dieu, que la lumière du Christ vient mettre en évidence. Et elle se présente donc sous la forme d'une imposture religieuse. Il veut prendre la place de Dieu, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes, mais au prix de l'apostasie, du rejet, de l'abandon de la vérité. Il y a quelque chose là qui est extrêmement précis, et qui, si on peut dire, ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité sont du coup sensibles à ce mystère de l'iniquité. Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité se retrouvent sans défense par rapport au déploiement de ce mystère de l'iniquité. Saint Paul dit un peu plus loin, au verset 10, sa venue à lui, l'impie aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre de puissance, de signes, de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition, pour n'avoir pas accueilli, quoi donc, l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Ce mystère de l'iniquité se présente pour les hommes, et donc s'oppose à ce que va dire l'Église, justement comme un message de salut parallèle. Mais au lieu d'être un salut dans le Christ, c'est un salut qui va proposer justement un autre Christ, un anti-Christ, en disant, mais la foi en Jésus, est-ce que ça vous a apporté la paix? Non, moi je vous apporte la paix. Ça vous a apporté une espèce d'unité entre les hommes? Non, moi je vous apporte une unité d'entre les hommes. Mais au lieu d'être dans la vérité, c'est dans la confusion, c'est dans le mélange des genres, c'est dans justement la résolution des problèmes par le mépris de la vie de l'homme, l'instrumentalisation de l'homme pour le confort. C'est lorsque, justement, à la béatitude, on va faire primer le bien-être. Apparemment, on se présente comme étant au service de l'homme, mais en fait, on abandonne tout ce qui fait la grandeur de l'homme à l'image de Dieu, à la suite du Christ. Et l'absence d'amour de la vérité nous rend, faibles, nous rend sensibles à cette suggestion. Finalement, l'Antichrist, est dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, au verset 22-23, est qualifié ainsi. « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ?» Le voilà l'Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Et donc on voit qu'il y a un combat contre l'affirmation, la reconnaissance de Jésus, à la fois comme l'envoyé de Dieu, mais comme le Fils du Père. Comme le Fils du Père qui s'est fait chair. Comme le Fils du Père qui s'est incarné. L'Antichrist vient attaquer justement cette révélation, que Dieu soit communion d'amour, que Dieu se soit fait chair gratuitement pour sauver l'humanité, que Dieu se soit fait chair pour que notre chair, pour que notre humanité ait part avec lui. Alors, on va transformer l'image de Dieu. On dit, mais on n'a pas besoin de cette incarnation, c'est très compliqué. On n'a pas besoin de la Trinité, c'est très compliqué. Et on peut avoir une religiosité, beaucoup de gens sont religieux. Mais perdez le mystère de la Trinité, vous perdez l'amour. Dieu est amour parce qu'il est Trinité. On n'est pas amour tout seul. Et nous sommes aimés de Dieu et nous avons part à la vie de Dieu parce que le Christ s'est fait chair. Et l'Église, qui est justement le témoin de cette révélation, est donc en confrontation directe avec l'esprit du mensonge et de confusion. La lutte est sévère. La première à Timothée, au chapitre 4, le dit expressément. L'Esprit dit que dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines diaboliques, séduits par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur conscience. Rappelez-vous, Jésus lui-même disait en Luc 18, au verset 8, « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors on a évoqué ici la violence, la rudesse de ce combat et l'attaque extrêmement agressive contre l'amour de la vérité, contre la vérité. Mais nous disposons de l'aide divine au sein du combat. Et l'Écriture insiste là-dessus. Je voudrais évoquer en Luc 22 ce que Jésus dit à Simon-Pierre. Vous savez, c'est encore pendant le dernier repas. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Passer au crible, hein, c'est-à-dire, bon, si vous avez déjà vu un crible, ça ressemble à une espèce de tamis dans lequel on secoue très violemment le grain pour que le grain soit séparé de la cosse. Ça permet de récupérer le grain qu'on va moudre et faire le froment. Voilà que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et si cette parole désigne immédiatement, quand tu seras revenu de ton reniement, affermis tes frères, c'est aussi la mission de l'Église et la mission du successeur de Pierre, le pape, d'affermir ses frères dans la foi, parce qu'il est porté par la prière du Christ. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Ça ne veut pas dire qu'il est invincible, ça ne veut pas dire que sa réflexion ne peut jamais tâtonner, mais quand il exprime la foi solennellement, sa foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et cela est possible parce que Jésus a annoncé à l'Église un don particulier. Il leur a promis, je ne vous laisserai pas orphelins. Lorsque viendra le paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, je suis en Jean 15, verset 26, l'Esprit de vérité, remarquez justement comment il est présenté, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. L'Esprit de vérité nous est donné. Le paraclet, c'est-à-dire, paraclet, l'avocat face à l'accusateur, le défenseur face à l'ennemi. Paraclet, ça signifie tout cela, défenseur, avocat et même consolateur, parce que celui qui est dans la tribulation peut se sentir abandonné. Et l'Esprit est là aussi pour nous permettre de rendre témoignage. De la même façon que Jésus est venu rendre témoignage au Père, l'Esprit qui nous est donné est là pour que nous puissions rendre témoignage à notre tour. Rendre témoignage au Christ qui rendait témoignage au Père. En Marc, par exemple, 13, au verset 10, « Il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. » Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Et donc, nous voyons que la tribulation sera l'occasion de rendre un témoignage au Christ. On pourrait le retrouver encore en Luc, en 21, quand il dit ceci, au chapitre 21, le verset 12. « Avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom, et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense. Moi, je vous donnerai un langage et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. » Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, saint Paul insiste sur un autre fruit de la tribulation. Il dit ainsi au verset 3, « Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. » Et il conclut, « Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. » La tribulation produit la constance une vertu éprouvée, c'est-à-dire que la capacité à faire le bien, à vivre le bien, à persévérer, quand bien même c'est difficile, et cette persévérance à vivre le bien produit l'espérance, c'est-à-dire déjà une façon de posséder le royaume des cieux. Rappelons-nous encore ce que Jésus avait dit dans les Béatitudes. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas la joie d'être persécuté, c'est, on précise, à cause de moi, à cause de Jésus. Votre récompense sera grande dans les cieux, d'être devenu justement pleinement fils du Père, c'est-à-dire d'avoir vécu la liberté d'aimer. Quel est, je dirais, tout l'intérêt de l'Église? L'Église, elle est la mère qui nous accouche, qui nous donne de naître dans la liberté d'aimer. C'est ce que le Christ a manifesté, cette liberté d'aimer, jusqu'au don total de lui-même sur la croix, en révélant que cette liberté d'aimer jusqu'au bout ne pouvait pas demeurer prisonnière de la mort, mais qu'elle rejaillissait en vie éternelle, ayant fait éclater les portes de la mort. Eh bien, l'Église est appelée à faire ce même chemin de perfection de l'humanité, comme le Christ l'a ouvert, pour entrer dans cette plénitude de la liberté d'aimer, malgré la difficulté. La difficulté, la tribulation, devient même un instrument contre les forces du mal, contre le désir des forces du mal, mais devient un instrument pour le déploiement et l'affermissement de cette liberté d'aimer. Dans la première épître de saint Pierre, au chapitre 4, au verset 13 et 14, il dit ceci, « Dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse nous manifestent ceci, la fin du combat de l'Église ne se produit pas par une espèce de transformation du monde qui serait progressive avec un monde qui de plus en plus entend la parole de Dieu, y réfléchit, l'aime et la met en pratique. Elle nous montre au contraire un combat de plus en plus violent, de plus en plus, rude, de plus en plus agressif. Et ce qui met fin à ce combat, c'est la venue glorieuse de Jésus. C'est la venue du ciel, de la Jérusalem céleste. Alors, le dragon, la mort, l'Hadès sont jetés dans l'étang de feu. Ils sont vaincus définitivement. Alors le ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et je vis, dit le voyant, la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Ce combat de l'Église, donc, est annoncé par le Christ. Le serviteur n'est pas au-dessus du maître. Le serviteur qui apprend à aimer comme son maître sera l'objet de la même haine de l'antique dragon et de ceux qui se laissent séduire par lui. Dans ce combat, nous sommes appelés à être attentifs à l'amour de la vérité et à le cultiver. Nous sommes portés par la prière du Christ qui a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas, que la foi de l'Église, la foi du chef de l'Église, ne défaille pas pour qu'il puisse affermir ses frères. Nous bénéficions du don de l'Esprit Saint qui vient à notre secours dans la tribulation. Ce don, nous sommes appelés à en avoir conscience. Et voilà que c'est la béatitude de ceux qui ont appris à aimer comme le Christ aime qui nous est annoncée. La possession de la vie divine. Puisse l'Écriture qui nous révèle ce combat nous permettre d'être vigilants, de ne pas être naïfs en espérant que nous pourrions nous passer entre les gouttes. Que l'Écriture qui nous révèle ce combat nous donne aussi de saisir les armes du Christ et la consolation qui nous est donnée dans l'Esprit. Que nous ayons à cœur de demander souvent et à plusieurs ce don de l'Esprit. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur le combat de l'Église.
Ce combat de l'Église a amené la théologie catholique à parler de l'Église de la manière suivante pendant très longtemps, même si le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, a quelque sorte déplacé la manière de représenter l'Église, de nous en donner une image complète. La théologie traditionnelle distingue trois niveaux de réalité de l'Église. L'Église militante, l'Église souffrante et l'Église triomphante. L'Église militante, ben c'est nous qui galérons sur la terre à essayer de suivre le Christ et qui sommes le corps du Christ qui milite sous l'étendard du Seigneur. L'Église souffrante, c'est les âmes du purgatoire, ceux qui sont qui s'acheminent à la gloire de Dieu. Et l'Église est donc qui est en temps de purification. Et l'Église triomphante, qui est l'Église du ciel, des anges et des saints. Et c'est intéressant de comprendre que justement ces distinctions sont à recevoir sans séparation, avec cette idée qu'il y a une porosité entre l'Église du ciel et de la terre, et entre le monde des hommes et le monde des anges, c'est-à-dire que cet étagement du réel, c'est tout cela l'Église. L'Église, ce n'est pas que ce que nous en voyons et ce que nous en expérimentons dans notre histoire humaine. L'Église est plus riche que ce que nous percevons avec nos yeux de chair et dans l'espace et le temps de l'histoire des hommes. Et cette grande, elle est née de manière ouverte sur le monde invisible. Et sur la terre, l'Église participe à ce combat qui se joue en coulisses et dont le mal que nous voyons n'est que la partie visible. Le mal que nous voyons proliférer sur la terre, eh bien, n'est qu'un aspect du mystère du mal. Il y a par derrière le combat précisément de la femme est poursuivi par la bête. Il y a par derrière tout ce combat invisible mené par les puissances invisibles dont le Christ est au sommet et en quelque sorte le chef des armées. Et c'est intéressant, Épître aux Éphésiens, je crois que je retrouve le verset, il y a un très beau petit verset qui passe souvent inaperçu, qui nous dit que les anges contemplent dans l'Église le projet de Dieu. C'est-à-dire que les anges, ils voient l'Église et ça leur dévoile le projet éternel de Dieu, ce que Dieu veut faire. Et les anges découvrent le projet de Dieu en contemplant l'Église qui est en train de s'édifier, cet édifice qui est en train de croître et de resplendir. Je crois que c'est dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Et ils la soutiennent du coup aussi dans son combat. L'Église est une réalité à la fois de la terre comme du ciel. Ce ne sont pas deux réalités parallèles, vous voyez. Et l'art sacré a essayé au fil du temps de nous faire comprendre ça. Que l'Église est cette réalité, il y a un mot théologique qu'on emploie pour le dire, qui est théandrique, c'est-à-dire dans lequel la vie divine et notre vie humaine s'interpénètrent et s'entrecroisent. Voyez. Et le propre de l'art sacré, c'est justement, il a essayé tout au long des siècles de nous donner à comprendre cette part, de rendre visible cette part invisible de la vie de l'Église. Alors ceux qui ont visité Rome, vous vous souvenez peut-être du trompe-l'œil de Pozzo à l'église Saint-Ignace, mais il y a tant et tant d'œuvres de l'art sacré qui nous ils ont essayé de le faire comprendre, et je vous en montrerai quelques exemples tout à l'heure. Alors sur la terre, l'Église est combattue également. Et ces combats singuliers que nous pouvons constater contre des ennemis repérables participent donc d'un combat plus grand. Et de ce point de vue-là, les martyrs, depuis qu'il y a des martyrs dans l'Église, une grande dévotion aux martyrs s'est déployée, comme ceux qui sont une illustration évocatrice de ce grand combat. Le livre d'Apocalypse, justement, parle de ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, hein, vêtus, c'est tous ces hommes vêtus de blanc. Mais ces martyrs ne font plus que désigner tel ou tel ennemi de circonstance, que ce soit l'empereur Dioclétien, que ce soit Pol Pot ou tous les autres pourfendeurs de chrétiens. Ces martyrs ne nous sont pas donnés à livrer à notre vénération simplement pour que nous nous indignions et que nous nous scandalisions des persécuteurs de la foi et de cet ennemi repérable et visible qui sort la tête de son gouffre et puis qui, avant d'y retourner. Mais les martyrs nous indiquent la voie du salut qui consiste à se laisser configurer par le Christ. Car non seulement dans leur vie, mais jusque dans leur mort, ils se sont laissés informer, configurer par le Christ. Le Christ a pris forme en eux. Ils ont été comme Christoformés. Le Christ, en quelque sorte, les a habités jusqu'à l'intérieur de leur mort. Et le culte des martyrs dans l'histoire de l'Église, d'une certaine manière, est une manière à la fois de nous montrer qu'il y a un combat se mène, mais que surtout la victoire dans ce combat, c'est de laisser le Christ se déployer en nous jusque dans notre mort. Et la dénonciation du mal, l'idolâtrie de l'empereur ou l'intrinsèque malice du communisme, si on reprend Dioclétien et Pol Pot, ne conduit pas l'Église à prononcer des damnanisations. L'Église prononce des canonisations. L'Église, dans ce combat, ne voue pas à l'enfer ses ennemis, mais elle proclame des saints. Elle annonce la victoire. Il s'agit de faire apparaître toujours que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que l'Église sait que la victoire du Christ, déjà acquise, se propage en ses membres, dans les membres du corps du Christ, dans les membres du Christ. Que cette victoire nous gagne peu à peu, se propage en nous, et que les avanies de ce monde, les persécuteurs et les vexations des chrétiens, et que les combats que nous rencontrons, en fait, sont peu de choses au regard de cette victoire déjà acquise. Mais cette Église, du coup, mène bataille, et elle mène une bataille dans le monde visible et dans le monde invisible. Alors, je voudrais vous montrer quelques petites œuvres qui, dans l'histoire de l'art, ont essayé de l'illustrer. Et j'espère que vous allez correctement voir. D'abord, une représentation de l'Église triomphante et militante, ensemble. Je ne sais pas si, j'espère que vous voyez bien, et si vous ne voyez pas, moi je suis tout à fait disposé à mettre un banc ici pour que vous veniez regarder sous l'écran, puisqu'il y a un banc ici, ça vous dit ? Voilà, venez là, ceux qui ne vous voient pas bien.
Oui. Ah, si vous pouvez le voir, vous pouvez le voir.